Bonsoir, Raph.
Encore une fois, Michel. Oui. Bonsoir tout le monde. Voilà. La fête de Pessah, elle n'est pas complètement homogène durant les 7 jours. Durant les 7 jours, ce qui est constant, c'est l'interdit d'avoir du chametz, d'en posséder, et l'interdit d'en manger. Et c'est aussi la mitzvah. Si tu veux manger du pain, il faut manger de la matzah. Tu ne peux pas donc manger autre chose que de la matzah si tu veux manger une sorte de pain. Mais à Pessah, il y a un jour qui joue un rôle beaucoup plus important que les autres jours. Et ce jour en question, c'est même plus spécifiquement, c'est un soir, c'est le premier soir de Pessah. Le premier soir de Pessah, il y a une première mitzvah qui est de raconter la sortie d'Égypte. C'est une drôle de mitzvah parce que on a une mitzvah quotidienne, 2 fois par jour, de se souvenir de la sortie d'Égypte. Dans le troisième paragraphe du Shema, on mentionne la sortie d'Égypte. Donc on s'en souvient, on se la rappelle 2 fois par jour, tous les jours de l'année. Et tout à coup, le soir du 15, Nissan, il faut raconter. Il suffit pas de s'en souvenir, il faut raconter. C'est autre chose. C'est pas du tout la même chose que de raconter ou s'en souvenir, en fait. Et c'est pas non plus un récit historique. Et donc, on va essayer de voir d'un peu plus près de quoi il s'agit, mais auparavant, je vais juste rappeler un peu le déroulé de ce qui se passe le soir du 15. Parce que ce récit de la sortie d'Égypte, c'est un récit qui va se faire à la table familiale, a priori, et ce récit va avoir des règles. Le récit, c'est le récit de la sortie d'Égypte. Mais la sortie d'Égypte, c'est l'aboutissement d'un processus qui a commencé bien sûr bien avant. Et en particulier, c'est un processus qui a commencé au moment où les Bnei Israël étaient esclaves de Paro en Égypte. Ils étaient esclaves. Ils étaient donc en exil en Égypte parce qu'ils n'étaient pas chez eux et ils étaient esclaves. Alors quand on parle des Bnei Israël, il faut se souvenir de c'est quoi les Bnei Israël en question? Les Bnei Israël qui vont sortir d'Égypte, ce sont des gens qui sont les descendants de la famille de Yaakov. La famille de Yaakov, c'était à ce moment-là 70 personnes, sont descendues en Égypte. Ils étaient en Eretz Israël, et donc ils sont descendus en Égypte. Ils sont descendus en Égypte parce qu'il y avait une famine et qu'en Égypte, ils pouvaient être nourris. Tout le monde venait en Égypte pour acheter à manger, mais eux, ils avaient un statut particulier parce que celui qui avait sauvé l'Égypte de la famine, parce que les années d'abondance qui avaient précédé les années de famine, il avait fait des réserves, il avait organisé tout ça, C'était un membre de la famille de Jacob. C'était un fils de Jacob, c'était Yosef. Yosef était quasiment le roi. Il était vice-roi d'Égypte. C'est lui qui avait la haute main sur toute l'économie égyptienne. Et donc il a dit à son père, descends, je m'occuperai de toi en Égypte. Et donc quand les Bnei Israël sont descendus en Égypte, ils ont été très bien accueillis. Ils étaient la famille du roi, quoi, quasi, enfin, du vice-roi. Vous comprenez, donc on a déroulé le tapis rouge pour eux. Mais petit à petit, en fait, les gens sont morts, etc. Et il y a eu un retournement de la situation. En même temps, il y a eu chez les Bnei Israël une explosion démographique. Bon, ce groupe de 70 personnes sont devenus très nombreux. Et ensuite, l'esclavage est devenu un esclavage absolument insupportable. Et à ce moment-là, les Bnei Israël ont crié. Et au lieu de crier comme les gens crient quand ils sont en danger, ils crient maman, les Bnei Israël, ils ont crié vers Hachem. Alors, ce n'était pas vraiment une prière, etc., mais Hachem a validé ça comme une prière, quelque part. Et Hachem a décidé que ça suffisait, qu'il allait mettre un terme à cet esclavage. Et il va proposer aux Bnei Israël de sortir de cet esclavage. Sortir d'Égypte, c'était quelque chose de tellement impensable que 80% des gens ont dit non, on sort pas. Il n'y a que 20% qui ont dit qu'ils étaient d'accord de sortir. Et ils sont sortis d'Égypte. 7 jours après la sortie d'Égypte, ils étaient de nouveau en danger de mort parce que les Égyptiens les avaient poursuivis et que devant eux, il y avait la mer. Ils ne pouvaient pas donc retourner en arrière et de part et d'autre, ce n'était pas hospitalier, c'était le désert. Donc ils étaient coincés. Et là, il y a eu un miracle. Hachem a dit à Moshe d'ouvrir la mer. Et la mer s'est ouverte. Les Bnei Israël sont entrés ils étaient entrés dans la mer. Et au bout d'un moment, ça a été complètement asséché. Ils ont franchi ça à pied sec. Les Égyptiens qui les poursuivaient les ont suivis. Et les Bnei Israël sont remontés de l'autre côté. Et à ce moment-là, Hachem a dit à Moshe de rabattre les murailles d'eau qui s'étaient amoncelées pour que les Bnei Israël puissent traverser. Et l'eau est retombée, a noyé l'armée égyptienne. Ça, c'était 7 jours après la sortie d'Égypte. Et puis ensuite, il va y avoir une guerre avec Amalek. Il y a eu un épisode qui s'appelle Mara, où les Bnei Israël avaient soif et l'eau qu'ils trouvaient n'était que de l'eau saumâtre. Et il y a eu un nouveau Ness. Et Moshe Rabbeinu a rendu cette eau. Sur l'ordre d'Hachem, il a rendu l'eau potable. Et 50 jours après la sortie d'Égypte, les Bnei Israël se sont retrouvés au pied du Sinaï et ils ont accepté la Torah. C'est ça la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte n'est pas le fait d'accéder à une liberté au sens où liberté voudrait seulement dire ne plus être esclave. C'était pas ça qui était le but de l'exercice. Le but de l'exercice, c'est d'accéder à une forme de liberté. Cette liberté-là, c'est celle qui correspond à une vie vécue conformément aux mitzvot de la Torah, à la façon dont Hachem nous conseille de vivre pour notre bien, en fait. Alors, ce récit qu'on va faire le soir du 15, C'est un récit qui commence par un côté honteux, un côté très négatif. On va rappeler la condition d'esclave dans laquelle était l'Ebné Israël. Et le récit va se dérouler jusqu'à arriver à cette libération. Alors, on ne pourra pas faire, par exemple, un récit sous forme de on raconte tout de suite la libération, puis après on fait un flashback et on va raconter comment on y est arrivé. Non, on va le raconter de cette manière-là. Tu commences par le côté négatif et tu vas vers le positif. Deuxièmement, c'est un récit. Ce récit, il a été ordonné au Bnei Israël par Hachem dans la Torah, qui leur a dit, qui en fait s'adressait à Moshe, mais bon, c'est valable pour tout Israël, mais lui a dit, voilà, tu vas raconter ça à ton fils et à ton petit-fils. Mais c'est un récit un peu étrange, parce que d'ordinaire, quand on fait le récit de quelque chose, le quelque chose, il existe pour lui-même. Les gens qui racontent leur guerre, la guerre, elle a existé parce qu'il fallait faire la guerre ou parce que certains ont voulu faire la guerre. Et après, il y a quelqu'un qui vient qui éventuellement raconte la façon dont lui, il a vécu cette guerre. Mais à la limite, rien ne serait, disons, la guerre, elle n'est pas du tout affectée par le fait qu'on va la raconter. Par contre, ce qui se passe dans ce récit que nous faisons le soir du 15, c'est que l'ordre qui nous a, la mitzvah donc qui nous a été donné de raconter, elle est introduite de la manière suivante dans la Torah. Hachem dit à Moshe, au bout d'un certain nombre de makot, de plaies qui ont frappé l'Égypte, Hachem dit à Moshe, voilà, Paro il va céder maintenant. Parce que ça fait tellement mal qu'il va être obligé de céder. Mais moi, je suis pas intéressé à arrêter ces plaies que j'inflige à l'Égypte, parce que par rapport à l'Égypte, je suis en train de faire une démonstration pour leur montrer la différence entre un dieu et des idoles. Et par conséquent, je vais donner la force à Paro de résister et de ne pas céder. Donc ça veut dire que son jugement personnel à Paro, il est clos. Terminé. Maintenant, il est un pion dans une démonstration qu'Hachem fait à l'Égypte. Et dans la même phrase, il est dit, ou le Mahan et le fait que je vais continuer les Makot, c'est aussi pour que ou le man, afin que tu racontes à ton fils, à ton petit-fils, comment je me suis joué de l'Égypte, comment je me suis moqué des Égyptiens, comment j'ai fait ce que je voulais avec l'Égypte. Par conséquent, on a cette situation étrange que, en ce qui concerne les Israël, il n'y avait pas un événement qui avait des raisons d'être. Et puis ensuite, une mitzvah de le raconter. L'événement n'a eu lieu que pour qu'on puisse le raconter. Donc ça fonctionne à l'envers. Donc c'est quelque chose de tout à fait particulier. Ça montre l'importance de ce récit. Nous sommes un peuple qui vit sur le récit. Alors, tous les peuples ont des récits nationaux, si vous voulez, mais nous, on montre vraiment que il ne s'est pas passé quelque chose que nous avons raconté. L'important, c'est qu'il y ait un récit, et pour qu'il y ait un récit, alors il s'est passé quelque chose pour qu'on ait quelque chose à raconter, quoi. Et donc, le récit doit se dérouler du négatif vers le positif. Ensuite, le récit que tu vas raconter à ton fils, on pourrait penser que raconter un père qui raconte à son enfant, c'est le père qui parle et l'enfant qui écoute. Or, dans le récit qu'on a la mitzvah de faire, ce récit doit se dérouler impérativement sous forme de questions-réponses. Alors évidemment, les questions, ce sont les questions de l'enfant, a priori, et les réponses du parent. Donc ce n'est pas du tout une histoire qu'on raconte à son enfant. Ce sont des réponses à un questionnement de l'enfant. Alors évidemment que l'enfant, il va pas poser des questions sur la sortie d'Égypte comme ça. Alors, il va poser des questions, mais sur quoi il va poser des questions? Il va poser des questions parce que le récit, on va le faire pendant, je vous ai dit, à la table familiale. Table familiale, pourquoi table familiale? Parce que, comme tous les Yamim Tovim et comme Shabbat, il y a une table familiale. Bon, dans cette table familiale, il va y avoir un repas de fête. Et on va faire, lors de ce repas, on va faire des choses qui vont choquer les enfants pour les obliger à poser des questions. Alors ce repas familial, il va commencer comme tous les repas familiaux de fête. Il va se dérouler en 15 tableaux. Le premier tableau, il est commun à tous les repas de fête. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le kiddush. Kiddush, ça veut dire sanctification. La notion de kedusha, si vous voulez, c'est la notion qui, au niveau le plus bas, s'appelle séparation. Quand deux choses sont séparées, c'est le niveau zéro de la Kdusha, si vous voulez. Kadosh, ça veut dire séparé. Donc c'est séparé de plus en plus haut, et avec une distance de plus en plus grande entre les éléments qui sont séparés les uns des autres. Mais c'est une notion de séparation. Et cette séparation, c'est-à-dire c'est la séparation qu'il y a entre Shabbat et les jours de la semaine, entre un jour de fête, Pessah, Shavuot, Sukkot, etc., Shkodesh, et les autres jours. Et comment est-ce qu'on va marquer la séparation? Bon, justement, en disant, en lisant éventuellement, en disant ou en lisant le texte de la Torah qui prescrit la kedusha du jour en question, la singularité du jour en question. Et donc, à Shabbat, on va dire quelque chose sur le Shabbat, et à Pessah, dire quelque chose sur Pessah, à Shavuot, sur Matan Torah, à Sukkot, sur la Simcha, etc. Ça, c'est uniquement par la parole. C'est une façon de sanctifier le jour en question. Et il y a une mitzvah de le sanctifier au début et à la fin. Le début, ça s'appelle Kiddush, et la fin s'appelle Avdalah. Dans la Avdalah, on va mentionner que jusque-là, on avait une séparation et on revient à l'ordre habituel des 6 jours de la création, enfin des 6 jours de la semaine, et des jours qui sont plus Pessah, qui sont plus Shavuot ou qui sont plus Sukkot. Les Chachamim ont instauré que cette déclaration-là, que nous faisons en particulier lorsqu'on fait cette déclaration dans la tfila, dans le Arvit, dans la prière du soir de l'entrée de ce Shabbat ou Yom Tov, il y a une. En fait, la tefila, elle n'est consacrée que qu'à ça en réalité, parce qu'il y a les trois premières et les trois dernières qui sont les trois brachot devant et à la fin qui sont là dans toutes les Amidot, dans toutes les Shemoneh Esrei, il y a toujours les trois premières jusqu'à Takadosh, les trois dernières. Bon, et puis, en semaine, eh bien, il y a toutes les demandes. Et Shabbat, ben, il y a un récit, un texte sur le Shabbat. Et à Pessah, un texte sur Pessah, un texte sur Shavuot, sur Sukkot. C'est tout. La Amida du soir, c'est ça. Donc, on a fait cette déclaration. Mais les Chachamim m'ont dit qu'ils voulaient qu'on donne un peu plus d'éclat et de festif, côté plus festif à la déclaration, allez, ils nous ont imposé de faire cette déclaration sur un verre de vin. Donc c'est systématique, en fait, dans toutes les circonstances, pratiquement, pour donner un peu plus d'éclat, pour donner un peu plus de chachivout, on fait ça, on parle sur un verre de vin. On va faire, par exemple, dans un mariage, d'accord? Normalement, on devrait faire, on fait une bracha sur le mariage, sur les kiddushin et après sur les nissouin. Mais à chaque fois, on va faire précéder ça du fait de, on va boire, en l'occurrence, pour rendre un peu plus festif. Et donc, puisqu'on va boire, on va faire une bracha sur le vin. Et donc, il y a à chaque fois systématiquement une bracha sur le vin avant de faire la bracha essentielle sur le sujet qui nous intéresse. Et donc, c'est ça le kiddush et la havdala. Normalement, le kiddush, il parle que du Shabbat. Mais pourquoi le kiddush commence par Borei Pri HaGafen? Et après seulement, vous parlez du Shabbat. Et la havdala, elle commence aussi par Borei Pri HaGafen. Et après seulement, vous parlez de la havdala. Bon, c'est systématique. Et donc, le kiddush est un kiddush al-hayay. Dans tous les repas de fête, a priori, on va manger du pain. Donc, c'est un repas. Et donc, on va avoir une obligation de birkat Amazon quand on aura terminé de manger. Et ce birkat Amazon, s'il y a plusieurs hommes, etc., il va y avoir un zimoun. Et le Zimoun, lui aussi, Chachamim, m'ont dit, ben, fais-le avec en faisant une bracha sur le vin. Et là aussi, on va faire la bracha sur le vin. Bon, on la va faire après, pas avant, mais on fait de nouveau un Borei Pri HaGafen après le Birkat Hamazon. Et donc, à Pessah, pardon? Oui, il y en a des gens qui font ça à tous les repas. Il y en a qui font ça même quand on n'est pas trois. Ils font le Birkat Hamazon sur le vin. Et OK. Et donc ça, ces deux verres de vin, en quelque sorte, ils sont standards, ils sont là tout le temps. Le soir du Seder, les Chachamim ont voulu de nouveau aussi mettre quelque chose en évidence. Ils voulaient mettre en évidence le fait que quand Hachem nous a dit qu'il allait nous sortir d'Égypte, il a utilisé quatre verbes qui disaient « je vais vous racheter, je vais vous libérer, je vais faire de vous mon peuple, etc. » Quatre neshonot, chez le Géoula, ça s'appelle, quatre termes qui indiquent la Géoula. Et pour mettre, rappeler cette richesse qu'il y a dans l'opération de libération, ils ont décidé que le soir dans le repas de fête de Pessah, de la Géoula, on va boire quatre coupes de vin. Mais ils n'ont pas ajouté quatre coupes aux deux coupes standards. Ils en ont ajouté que deux. Du coup, on en aura quatre. Mais ce qu'ils ont fait, c'est que le kiddush, ils ont dit, ce verre de kiddush, c'est un verre de kiddush, comme tout Shabbat et Yom Tov, mais en plus, il est le verre numéro un des quatre coupes. Et le Birkat Amazon, ce qu'on boit au Birkat Amazon, ils ont dit, c'est le verre standard du Birkat Amazon, et il a une deuxième casquette, il s'appelle troisième verre des quatre, pas des quatre. Et ils en ont ajouté un entre les deux et un complètement en dehors. Et ces verres de vin qu'on va boire, on va les boire parce que à un moment bien précis du repas, c'est-à-dire plus exactement à un moment bien précis du récit, par exemple, à un moment donné, on va faire une bracha sur la Géoula. Bracha sur le fait qu'Hachem nous a libérés. Pourquoi on fait une bracha? Parce que la notion de bracha veut dire amplification, c'est-à-dire qu'en vérité, on n'a jamais fini d'être libre, toujours être plus libre, etc. Et donc, quand nous faisons une bracha sur la libération qui a eu lieu à la sortie d'Égypte, on va demander à Hachem de continuer d'amplifier l'opération de libération. C'est pour ça qu'on va faire une bracha, puisque bracha, c'est une demande à Hachem, qui est la source de toute bénédiction, de toute amplification. On va lui demander d'amplifier la notion de libération. Et puisqu'on va faire une bracha là-dessus, on va ajouter, pour donner un peu plus d'éclat à cette bracha, on va boire un verre de vin à ce moment-là. C'est le verre numéro 2. Et le 4, il sera tout à la fin du processus. On en reparlera. Et donc, on a le kiddush. Et puis ensuite, dans le récit, alors, le centre, effectivement, du sujet de la soirée, c'est la notion de liberté. La liberté, pas la liberté simplement de ne pas être esclave. Bien sûr, on va parler évidemment de la liberté que donne le fait d'accepter de vivre selon les règles de la Torah. On va parler de ça aussi. Et le problème, c'est que comme on a dit que ça doit commencer par le côté négatif, par l'esclavage. C'est-à-dire, au départ, on se vit, pas ce récit, on va voir que c'est un récit dans lequel on essaie on va en parler, mais de se vivre sortant d'Égypte. Essayer de le vivre. Et donc, c'est le sujet. Et le problème, c'est que dans un état réel d'esclavage, eh bien, on ne peut pas penser la liberté. Quelqu'un qui est complètement esclave, qui est esclave parce que ça fait déjà plusieurs générations qu'ils sont esclaves dans la famille, et il n'y a pas de, à vue humaine, ils vont jamais sortir de l'esclavage. Donc ces personnes-là, qui sont esclaves, ne peuvent pas penser la liberté. Et donc, comme on va le faire dans tous les repas, au début du repas, qu'est-ce qu'on prend? On prend l'apéro. On va prendre un apéritif. L'apéritif, c'est pour ouvrir l'appétit. Eh bien, on va ouvrir l'appétit pour la liberté. Pas ouvrir l'appétit pour pouvoir manger, mais ouvrir l'appétit pour pouvoir penser la liberté. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va manger un peu des petits trucs, comme les amuse-gueules, là, comme ça, pendant un petit truc qu'on mange à un apéro. Là, en l'occurrence, l'apéro, à l'apéritif, on mange des choses qui, par leur nature, sont censées nous aider à ouvrir l'appétit. Comment on ouvre l'appétit à la liberté, quoi, finalement. Le moyen de ouvrir l'appétit à la liberté, c'est effectivement de sentir que l'esclavage est insupportable. On n'en peut plus, on tient plus le coup. C'est-à-dire, il va falloir parler de ce que les Égyptiens nous ont rendu la vie amère. C'est pas simplement qu'il fallait travailler pour eux, mais nous ont littéralement torturés durant cet esclavage. Et c'est ça les fameuses herbes amères dont on va parler plus tard. Alors, maintenant, on va pas manger des herbes amères puisque ça va se faire plus tard, mais on va manger quelque chose qui va avoir un lien ténu avec les herbes amères. Alors, on va manger quelque chose sur lequel on fait une bracha, qui est la même bracha que celle qu'on fait sur les herbes amères. Sur les herbes amères, on va faire Borei Pri HaAdama. C'est comme ça, quand vous mangez des herbes, enfin, des légumes, des trucs comme ça, vous devez faire Borei Pri, enfin, moi aussi, hein, on doit faire Borei Pri HaAdama. Et donc, les gens ont pris l'habitude de manger du persil, de manger du cerfeuil. Il y a des gens qui mangent des radis, d'autres mangent des pommes de terre. Je ne connais pas tout ce qui se mange. Enfin, on mange du Borei Pri HaAdama. Et ensuite, ce petit légume-là qu'on va manger, on va le tremper dans de l'eau salée ou dans du vinaigre pour justement lui donner une dimension de truc insupportable, quoi, quelque part, ouverture à la liberté. Alors, le lien, justement, finalement, quand vous mangez du persil, des pommes de terre, vous n'avez pas l'impression de manger des herbes amères. Alors, effectivement, on ne mange pas encore des herbes amères, mais je vous ai dit, il va y avoir un lien ténu avec les herbes amères. C'est quoi? C'est que quand on va manger ce qu'on mange là, ça s'appelle karpas. On va devoir faire la bracha de Borei Pri HaAdama, puisqu'on va manger quelque chose sur lequel on fait Borei Pri HaAdama, une pomme de terre, du persil, etc. Et alors, ce qui se passe, c'est que la bracha qu'on fait là maintenant, au début du repas, enfin de la table familiale là, on va considérer que cette bracha qu'on a faite ici, elle va valoir et nous dispenser de faire la bracha quand on va manger les herbes amères. On va pas refaire Borei Pri HaAdama. On va dire, on l'a déjà fait à ce moment-là. Et donc, notre lien avec du karpas avec les herbes amères, c'est parce que c'est la bracha de karpas qui sert aussi aux herbes amères. Donc, c'est ça le lien qu'il y a entre les deux. On a la même bracha pour qu'il y ait une dimension d'ouverture de l'appétit à la liberté. Et puis, étant donné qu'on va tremper dans de l'eau salée ou dans du vinaigre, quand on mange quelque chose qu'on trempe dans certains liquides, dans la plupart des liquides standards, on se lave les mains. Les Ashkenazim, ils n'ont pas tous l'habitude de le faire, mais tous les Sfaradim le font. C'est-à-dire, quand vous trempez vos croissants dans le café, ou quand vous faites des mouillettes, ou je ne sais pas comment quoi que vous fassiez, d'accord, suivant quel liquide, il faut faire Netilat Yadayim. Bon, alors, on va faire Netilat Yadayim sans bracha en général. Mais bon, Netilat Yadayim en fait. Ça veut dire que la première chose qu'on fait, c'est qu'il douche. La troisième chose, c'est l'apéritif. Mais pour pouvoir manger l'apéritif, il faut faire la deuxième chose qui est la netilat yadayim. Le premier s'appelle qui douche. Le deuxième s'appelle urchatz, c'est-à-dire laver les mains. Le troisième s'appelle karpas. Et après, le soir du Seder, il y a la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, et puis il y a une mitzvah de manger ce soir-là. Là, du coup, c'est obligatoire. Tu dois manger un morceau de matzah. Tu dois manger de la matzah. Alors, dès qu'on doit, on nous impose de manger quelque chose, c'est toujours quantifié. C'est-à-dire, on va vous dire combien il faut en manger. Et dans quel laps de temps il faut le manger. Et donc, on va manger, en gros, disons comme ça, on va manger la grosseur, on va manger de la matzah, une quantité dont le volume sera égal au volume d'une olive. C'est pas dit en termes de poids, c'est dit en termes de volume. Donc, ça veut dire, pour savoir combien il faut en prendre, si on veut le peser, c'est quand même plus facile à faire, c'est qu'il faut d'abord prendre une matzah et puis essayer de trouver la densité de la matzah. C'est-à-dire, il va falloir émietter au maximum, rendre la matzah quasiment en poudre et en remplir la grosseur d'une olive, d'accord? Vous allez évaluer le volume d'une olive, et puis vous allez remplir ce volume de farine de matzah, et vous allez peser cette farine de matzah, ça vous dira combien de matzah vous devez manger. Certains disent il faut manger, certains disent 30 grammes, voire disons trentaine de grammes, 60 grammes, bref. Quelque part, quelques dizaines de grammes. Et donc, c'est ça l'obligation de manger. Le reste de la fête de Pessah, on n'a pas d'obligation de manger de la matzah, mais si tu veux manger quelque chose qui ressemble à du pain, tu dois manger de la matzah. L'obligation de manger de la matzah, c'est seulement le soir du 15, et tu dois en manger la grosseur d'une olive, disons. Et tu dois le manger dans un certain laps de temps, disons 2 à 4 minutes. Il va falloir manger la matzah. Et alors, on va pas tout de suite manger la matzah, mais sur la table de table festive, il y a un plateau. Sur ce plateau, il y a des matzot. Et il y a quelques éléments dont on va avoir besoin le soir, durant le déroulé de la soirée. Alors, par exemple, on va mettre des herbes amères à mettre sur le plateau. On va mettre quelque chose qui n'est pas le Korban Pessah, parce que nous, aujourd'hui, nous n'avons pas de Korban Pessah. Mais on va mettre quelque chose qui fait penser au Korban Pessah. On va mettre un os avec de la viande et grillé. L'important, c'est grillé. Mais on ne mettra pas un os d'agneau ou un morceau d'agneau, d'accord? Parce qu'on ne veut pas faire quelque chose qui est une approximation du Korban Pessah. On veut faire quelque chose qui fait penser à. Et donc, on va mettre, je ne sais pas, un os de poulet ou un os d'autre chose, mais pas de l'agneau. Et puis, il va y avoir aussi la viande de la fête, la viande qu'on va manger en tant que viande de la fête, ça n'est pas l'agneau pascal. L'agneau pascal, on va le manger à la fin du repas, on en parlera. Mais il faut avoir de la viande, enfin, c'est bien d'avoir de la viande Yom Tov. Eh bien, ou bien on a de la viande, ou bien si on n'a pas, alors la veille de Yom Tov, on a fait la shrita d'un animal qui s'appelle Chagiga. C'est aussi un korban, puisqu'on prend korban de la fête. Chagiga, c'est la lashon chag, c'est la viande de la fête. Et pour indiquer la viande de la fête sur le plateau, on met un œuf. Et parce que tout est toujours grillé, etc., donc on va, cet œuf-là, on va le griller, enfin, on va le noircir, on va le passer au feu. Et puis éventuellement, il y aura aussi quelque chose dans lequel on va tremper. Quand on va manger le maror, on va tremper dans quelque chose qui représente le mortier avec lequel on a fabriqué les briques. Puisque dans notre esclavage, on était spécialiste en fabrication de briques. Donc quelque chose qui s'appelle charoset, qui représente le mortier. On va manger de la matza. Alors, comme vous savez, la matza, c'est le pain le plus pauvre qui soit. On ne peut pas faire du pain plus pauvre que ça. C'est un pain qui a de la farine et de l'eau et du feu. C'est tout ce qu'il y a. À moins que ça, vous ne faites pas de pain. C'est ça la matza. C'était aussi la nourriture, le pain que nous donnaient à manger les Égyptiens quand nous étions esclaves. Alors, il y a le pain la matza dans la Torah, elle est présentée comme étant lechem oni. Alors, il y a plusieurs lectures de ce mot oni, et une des lectures, c'est dire que c'est un pain, le pain du pauvre, le pain pauvre et aussi le pain du pauvre. Alors, un pauvre, c'est quelqu'un qui n'a pas un pain entier. Un pauvre, il a un morceau de pain, il n'a pas un pain entier. Et par conséquent, on va fabriquer un morceau de pain. Comment on fabrique un morceau de pain? On va prendre. Traditionnellement, on met sur le plateau trois matzot. La matza du milieu, on va la casser en deux. Et on va laisser, avec les deux autres matzot entières, on va laisser ce morceau-là. L'autre moitié, on va la mettre dans une serviette. Et on va la réserver jusqu'à la fin du repas. On la met de côté. Et donc, du coup, on a sur la table les deux matzot, parce qu'on a toujours deux matzot quand c'est Shabbat, quand c'est Yom Tov, on a l'Echem Mishneh, donc on a deux matzot entières, et puis on a un morceau de matzah pour rappeler que la matzah, c'est un Lechem Oni, dans le sens pas seulement il est pauvre dans sa composition, mais c'est aussi le pain du pauvre, c'est-à-dire c'est un morceau. Ça s'appelle yachatz, c'est-à-dire on va casser en deux, la chonchatzi, moitié, on va casser. Alors, je n'ai pas parlé du fait qu'à un moment donné, je vais en parler maintenant, à un moment donné, on va présenter la matzah. Et on va dire quelque chose en araméen, qui est en introduction de la soirée. On va le dire en araméen pour que tout le monde comprenne, ce qui fait qu'aujourd'hui personne comprend. Alors ça veut dire qu'a priori, il faudrait en donner la traduction, parce que sinon, c'est du blablabla. Si on comprend rien du tout à ce qu'on dit. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit, voilà, ce pain-là, c'est le pain qu'ont mangé nos ancêtres en Égypte quand ils étaient esclaves. Et puisqu'on parle du fait d'avoir été esclave, on va dire, voilà, nous aujourd'hui, on se considère comme esclave. C'est comme ça que peut démarrer le récit qu'on va faire. Et on espère que l'an prochain, on sera libre. Aujourd'hui, on est ici, en Galoute. On espère que l'an prochain, on sera retourné en Eretz Israël. Et puis, on va ajouter quelque chose. On va dire d'abord, ça c'est quelque chose de fondamental. D'abord, il faut inviter tous les gens qui ont faim. Un repas de fête dans lequel on n'a pas invité les gens qui en ont besoin, c'est pas digne d'un repas de fête. Le Rambam dit ça sur tous les Yamim Tovim. Nous, on est tranquille, on a mis des cadenas à nos portes, on a l'impossibilité de qui que ce soit de nous déranger le soir du Seder. Donc, il faut inviter les gens, mais dans la phrase, on va dire, Kol Ditzrir, tout celui qui en a besoin, qu'il vienne et qu'il vienne manger avec nous. Évidemment, aujourd'hui, c'est un peu compliqué, on ne peut pas dire ça, enfin, disons aujourd'hui à Paris où tout le monde est sous des serrures, etc. Quelqu'un de l'extérieur ne peut pas venir chez vous, quoi. Et éventuellement, il peut appeler par la fenêtre si jamais vous. Et puis, vous allez ajouter, on va ajouter que tout celui qui a peut-être à manger chez lui, mais il est tout seul et il a besoin de faire le Pessah avec quelqu'un, avec les gens. Alors, si quelqu'un est dans cette situation-là, qu'il vienne et qu'il vienne faire Pessah avec nous. Cette phrase-là, bien sûr, nous, on peut la dire parce qu'on n'a pas de Korban Pessah. Mais quand il mangeait un Korban Pessah, il ne pouvait pas le dire. Parce que le Korban Pessah, par définition, on va en parler, mais c'est un Korban qu'il faut manger en appartenance à un groupe qui s'est groupé pour acheter ensemble un agneau pour en faire ensemble la shrita et pour le manger ensemble dans un lieu bien déterminé, dans une maison, sans sortir de la maison en question. Et donc, on ne peut pas dire à quelqu'un qui n'a pas été inscrit sur le même agneau que nous, on ne peut pas l'inviter à venir à manger le Korban Pessah avec nous. Il pourrait manger, bon, il pourrait manger autre chose, mais le Korban Pessah, il ne peut pas le faire avec nous. Donc, c'est une phrase que nous disons parce que nous sommes en galoute et qu'on ne pourrait pas dire si on avait si on avait fait un Korban Pessah. Alors, là, on est arrivé au début du récit. Là, on a mis en place le vin, le pain, la matzah. On a mis ouverture à la liberté, appétit pour la liberté. Et maintenant, on va faire la grande mitzvah de raconter. Alors, comme on a dit, c'est un dialogue avec questions-réponses. Donc, le premier qui prend la parole, c'est celui qui questionne. C'est-à-dire, comme dit Hazal, Kan Aben Shoel. Ici, dans le déroulé, ici, l'enfant, il pose des questions. L'enfant devrait poser des questions. Il faudrait dire qu'on a fait déjà des choses qui le choquent. C'est-à-dire où il voit que, tiens, ce soir, on fait autrement que d'habitude. Il va poser des questions sur, non pas du tout sur la sortie d'Égypte encore, ce qui c'est abstrait, je ne sais pas, mais il va poser des questions sur le comportement étrange qu'on a ce soir-là. On ne fait pas les choses comme d'habitude. Et il va poser quatre questions qu'on va lui souffler, évidemment, mais c'est tout ce récit que nous utilisons, c'est-à-dire cette Agada shel Pessah. Je crois, on ne connaît pas l'auteur de cette Agada, mais c'est un patchwork, c'est des morceaux de toutes sortes, des psukim, des mishnayot, de la Gemara, du midrash, enfin, toutes sortes de drashot, etc. Et puis, pourquoi est-ce que ça a été rédigé comme ça? Parce que on peut pas compter sur tout le monde pour que tout le monde sache. Évidemment, comment on raconte la sortie d'Égypte, etc. Et quelles questions il faut poser et tout. Et donc, l'enfant va poser des questions Il va poser les fameuses quatre questions, les quatre Manishtana. Il va poser Manishtana toujours à Laila Azé. En quoi est-ce que cette nuit-là se distingue des autres nuits? Au moment où on est à table, pourquoi ce n'est pas comme Shabbat? Pourquoi ce n'est pas comme à Sukkot ou comme à Shavuot ou comme etc. Alors d'abord, la chose qui le frappe, c'est que d'habitude sur la table, il y a du pain et il y a du, et de la matza. Il y a les deux. Ce soir, il n'y a que de la matza. Où est passé le pain? Deuxièmement, d'ordinaire, des légumes, on mange toutes sortes de légumes. Ce soir, au menu, qu'est-ce qu'il y a? Des herbes amères. Ça va pas. Troisièmement, d'ordinaire, on n'a pas l'habitude de tremper la nourriture. Et ce soir, on va tremper deux fois. Il n'a pas encore vu, il a vu qu'on a trempé une fois, le carpaccio dans l'eau salée ou dans le vinaigre. Il n'a pas vu qu'on va tremper, mais c'est beaucoup plus tard. Mais on va tremper deux fois. Et puis, il y a encore une autre chose dont je n'ai pas parlé, c'est que comme on est censé être libre, être libéré, alors on va manger de façon, de la même façon que les gens libres mangent. Et du temps de la Gemara, les gens libres mangeaient quasiment sur des lits, comme les Romains, ils mangeaient sur des lits ou sur des coussins, etc. Alors nous aussi, on va manger sur des coussins, sur des lits, etc. Et si on n'a pas de lit, de coussin, etc., ben on va s'accouder. Mais on ne va pas s'accouder sur la table, parce que s'accouder sur la table, c'est quand on est soucieux, etc. On va s'accouder ailleurs. Alors on va s'accouder, par exemple, sur l'épaule du voisin. Ça, on a le droit. On s'appelle s'accouder. On peut aussi s'accouder sur un coussin, sur le bras du fauteuil. C'est-à-dire, au lieu de manger comme ça, on va manger comme ça. Donc, on va manger, ça s'appelle manger en homme libre. Il n'y a pas beaucoup de gens qui apprécient la façon de manger de cette manière-là, mais bon, c'est comme ça. Donc, ça, c'est les quatre questions que l'enfant va poser. C'était pour démarrer la chose. Et puisqu'il a posé ses questions, il va falloir lui répondre. Alors on va répondre. Et dans la réponse, elle n'est pas tout à fait évidente comme réponse aux questions qu'il a posées, mais on va répondre presque à autre chose, ou peut-être de façon plus lointaine, on peut expliquer que lui, il ne pouvait pas poser autrement, mais ce qu'on a fait des changements, parce qu'on va trafiquer, on va amener les plats, puis après le plateau, puis on va l'enlever, on va le remettre, etc. On va faire des trucs incroyables pour que l'enfant pose des questions. Et on va lui répondre. Et donc, la réponse, ce sera le commencement du récit. Donc, on va commencer par parler du fait qu'on était esclave. Effectivement, la réponse, elle commence: Avadim haïnu le pharo bemitsraïm. Nous étions esclaves de Paro en Égypte. Et il y a tout un texte. Et curieusement, il y a un deuxième texte qui, lui, ne parle pas du tout de l'esclavage. Le deuxième texte, il raconte Mitrila. Au début, nos ancêtres étaient idolâtres. Il y a un récit de la sortie de l'idolâtrie. Avraham qui sort de l'idolâtrie. La question qu'on peut se poser, c'est comment ça se fait, disons, on a raté quelque chose là. Pessah s'est présenté comme la sortie de l'esclavage, pas comme la sortie de l'idolâtrie. C'est pourquoi tout à coup il y a un récit sur l'idolâtrie. Alors, je vais proposer une réponse, c'est jamais qu'une réponse parmi d'autres possibles. La réponse qu'on peut donner, c'est en réalité l'esclavage, c'est une certaine, c'est une. D'abord, c'est avec l'exil, c'est une forme faible de mort, ça on a déjà vu, mais c'est aussi une forme faible d'idolâtrie. Pourquoi? Parce que l'esclave, il vit son maître comme tout-puissant. Le maître de l'esclave, il peut faire avec cet esclave ce qu'il veut. Il est le maître de tout son, de, le maître de son temps, etc. Dans certaines formes d'esclavage, il a un droit de vie ou de mort sur lui. Il peut lui faire faire toutes sortes de choses. Donc, quelque part, il est pratiquement en position d'une divinité, le maître par rapport à son esclave. Et donc, ce qu'on veut dire, c'est que la sortie de l'esclavage, il faut comprendre qu'il y a dans l'esclavage une dimension, peut-être faible, mais d'idolâtrie. Et c'est peut-être pour ça, effectivement, que les Bnei Israël, quand ils ont été esclaves, ils se sont mis à être un peu idolâtres, un peu beaucoup d'ailleurs. Donc ça, c'est le récit. Il va y avoir deux récits en longueur, jusqu'à ce qu'on arrive à justement, on va d'abord montrer qu'effectivement cette mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, c'est pas une mitzvah qui est réservée aux ignorants. On va nous montrer que les plus grands maîtres de la Mishnah, Rabbi Akiva, Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, Tarfon, etc., ces gens-là, ils ont passé, le soir du Seder, ils ont passé toute la nuit à raconter la sortie d'Égypte. Et c'est très curieux, d'accord? D'ordinaire, les mitzvot que nous avons, c'est des mitzvot très précises. Quand on doit dire quelque chose, on nous dit exactement ce qu'on doit dire. Kriyat Shema, c'est, je dis exactement ça. Comment ça se fait ici? On dit Kol HaMarbe Misaper. Plus tu racontes, mieux ça vaut. Mais comment on peut raconter plus? C'est quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'ils se sont racontés, les Rachamim? Ils ne se sont pas racontés, tu sais, on était esclaves en Égypte, comme une nouveauté. C'est Rabbi Akiva qui parle avec ses maîtres, Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer. Alors, en fait, il y a déjà, bon, pour un peu dire un peu plus que ce qui est dans la, ce qu'on a vraiment directement lu, c'est assez étonnant ce qu'on nous raconte ici sur ces maîtres qui se sont occupés de la sortie de l'Égypte, ont raconté pendant toute la nuit, jusqu'à ce qu'au matin, leurs élèves viennent et leur disent, Rabotenu, Igiazman kriyat shema shel shacharit. Le temps de dire le shema du matin est arrivé. D'abord, ce qui est surprenant, c'est que les maîtres ne sont pas assis avec leurs élèves. On s'attendrait à que le soir du Seder, les élèves sont à la table des maîtres et les maîtres vont répondre aux questions des élèves. Et là, ils se sont réunis entre eux, probablement dans une espèce de bunker, puisqu'ils n'ont même pas vu que le soleil, que le jour commençait. C'est les élèves qui sont venus leur dire. Donc, ils étaient probablement dans un endroit où il n'y avait pas de fenêtre. Ou en tout cas, ça donnait sur une cour où on ne voyait rien, je ne sais pas. Alors, de quoi ils ont parlé? Et à part ça, comment se fait-il que ça ait eu lieu chez Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, c'est l'élève de Rabbi Yoshua et de Rabbi Eliezer. Normalement, c'est les élèves qui vont chez les maîtres et pas les maîtres qui viennent chez les élèves. Bon, ça, c'est pas terrible. Et certains disent qu'en vérité, cette réunion-là, elle a lieu, il faut remettre les choses dans le cadre. On est sous la domination romaine. Et probablement, quand on dit qu'ils ont parlé de la sortie d'Égypte, je pense qu'on peut penser très bien qu'ils ont essayé trouver des solutions à comment est-ce qu'on se débrouille avec cette domination romaine à la lumière de la sortie d'Égypte. Sortie d'Égypte, c'est la naissance du clan Israël. À la limite, il faut inventer un clan Israël sous domination romaine. Et donc, c'était ça qu'ils ont discuté entre eux. C'était secret. On voulait pas que les élèves allaient le raconter à l'extérieur. Peut-être qu'ils ont décidé de certaines mesures ou de résistance, ou etc. Et donc, ils ont. Et c'est ça aussi, ça s'appelle donc raconter la sortie d'Égypte. On dit aussi que étudier les halakhot de Korban Pessah, par exemple, et de Pessah, c'est considéré comme si pour Yetziat Mitzrayim. Il ne faut pas dire qu'on a fait autre chose. Alors, pour faire un peu plus court, on est arrivé à ce moment où on a fait cette bracha dont je vous ai parlé sur la Géoula, où on a mentionné que à chaque génération, il y a des gens qui se lèvent pour nous détruire, et à chaque fois, Kadosh Baruch Hu nous sauve. Il nous a sauvés jusqu'à présent, la preuve c'est qu'on est là. Alors qu'il y avait plein de gens qui avaient l'intention de nous détruire et de mettre fin à l'existence du peuple juif. Il y a le gros morceau qui est très connu, qui s'appelle Aman, avec son projet, et le gros morceau plus proche de nous qui s'appelle Hitler. Mais il y avait la même chose avec Staline, en vérité. Bon, c'est à chaque fois on a été sauvés. Des fois on a l'impression qu'on était sauvés par le gong. À dernière minute, sauvé. Des fois, c'était moins dernière minute, mais. Et le clan d'Israël il a toujours trouvé des solutions, comme vous avez raconté quand on a parlé de cette nuit qui précède toujours une nouvelle ère, une nouvelle façon de vivre. Après, je vous crois, à chaque fois, nous sort de cette situation. Et je répète que bien que la mitzvah soit de raconter la sortie d'Égypte, d'accord, on ne raconte pas la sortie d'Égypte dans son détail, en tout cas, dans la Haggadah. Dans la Haggadah, on nous raconte comment c'était avant qu'on sorte d'Égypte et comment c'était après qu'on soit sorti d'Égypte. Et si tu veux savoir comment on est vraiment sorti d'Égypte, alors, il y a une phrase dans la Gada qui dit Lo al yedei shaliach, lo al yedei saraf, lo al yedei malach, etc. C'est-à-dire, nous ne sommes pas sortis d'Égypte grâce à une révolution, à un changement de dynastie, à un tsunami, à un tremblement de terre, à une guerre, à la décolonisation, à tout ce que vous pouvez imaginer. C'est tout ce qu'on va imaginer par la suite pour parler de libération, éventuellement des termes qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, mais qu'on va peut-être inventer. Ce ne sera jamais ça. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui nous a sortis d'Égypte. Quand on dit que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a sortis d'Égypte, ça veut dire qu'on n'a aucune idée de la façon dont on est sorti d'Égypte. D'accord? Ça fait pas sens du tout. De dire qu'il y a tout un peuple qui sortit en une demi-journée ou en une journée, peu importe, qui est sorti d'Égypte. Et ensuite, par exemple, on peut aussi poser la question, quand Paro a chassé les Juifs d'Égypte en leur disant partez, partez, parce que tant que vous êtes là, il y a les premiers-nés qui meurent. Ça, c'était à Hatzot. C'est Hachem a dit à la minuit, je passerai en Égypte et je tuerai les premiers-nés. Mais quand Paro a dit partez, Hazal disent que Moshe Rabbeinu a répondu, on ne va pas partir comme des voleurs en pleine nuit. On partira demain matin. Et c'est écrit dans la Torah, c'est le Bamidbar, que les Bnei Israël sont sortis en plein jour. Il faisait jour. Alors pourquoi on parle de la nuit? Pourquoi le récit on le fait la nuit alors qu'on est sorti en plein jour? Il y a comme ça de questions étranges. Bon, on en parlera peut-être une autre fois. Et puis, on va continuer et on va dire une partie du Hallel. On va commencer les premiers chapitres du Hallel. Hallel, c'est l'expression de la Simcha. Voilà, il ne faut pas oublier que il faut être joyeux. D'abord, c'est Yom Tov. Et puis, on doit être joyeux d'être sorti d'Égypte. C'est une grande chose. On a eu très très peur, etc. On est sorti d'un enfer, mais on est sorti. Donc, il faut exprimer sa reconnaissance et sa joie en disant le Hallel. Vous remarquerez que nous, quand on voilà, dans les synagogues aujourd'hui, le Hallel, on le chante. Et le soir du Seder, la plupart des gens chantent le Hallel, chantent en tout cas des parties du Hallel. Mais on fait une bracha, on dit le Hallel, on fait une bracha, l'ikro et ha Hallel. L'ikro, ça ne veut pas dire lachir, ça ne veut pas dire chanter. Ça veut dire lire éventuellement et peut-être parler fort, korer, ça veut dire appeler. Bon, c'est très curieux. On considère que c'est des chants, mais comme on dit, des chants sur des poèmes, quoi. On chante, ça veut pas dire qu'on chante. C'est une façon de parler d'un certain poème, d'une certaine partie du poème. Donc on va dire, commencer le Hallel. Et puis, à ce moment-là, on va passer à la phase repas. Et le repas, il va commencer évidemment par faire motzi. Et pour faire motzi, il faut faire motzi sur la matza. Et puisqu'on n'a encore pas mangé de matza, on va commencer par bon, la première matza qu'on va manger, ça va être celle avec laquelle on va faire la mitzvah de manger de la matza. Donc on va faire ça tout ça ensemble. On va faire motzi matza. On va faire motzi et on va manger la matza. Et on va, comme toujours, pour Motsi, on va faire la bracha Motsi Lechem Haaretz. Et on va faire, puisqu'on va manger la matzah en tant que mitzvah, on va faire la bracha qu'on fait sur les mitzvot. Asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu lechol matzah. Et ensuite, on va manger aussi les herbes amères en question. Alors, je vous rappelle, on ne va pas faire Borei Pri Adama parce qu'on l'a déjà fait à Karpas. Par contre, la bracha, on va la faire. Et bien sûr, que puisqu'on va faire Motsi, pour pouvoir faire Motsi, il va falloir se laver les mains. Et donc, il va y avoir un des éléments, un des 15 tableaux de la soirée. C'est se laver les mains cette fois-ci avec bracha, comme on le fait toujours quand on fait motzi. Et on va manger le repas. Et tout ça, donc, quand on va boire le vin, quand on va manger la matzah, en tout cas, quand c'est les mitzvot, on va faire ça en mangeant accoudé, je vous rappelle. Accoudé sur le côté gauche, on dit. Ensuite, il va y avoir Birkat Amazon, mais on ne peut pas faire Birkat Amazon tout de suite, étant donné que on n'a pas fait la mitzvah du Korban Pessah. Alors, on n'a pas de Korban Pessah. Mais on va faire quelque chose qui remplace, plus directement, qui nous fait penser à la mitzvah de manger le Korban Pessah. Et ce qui va remplacer le Korban Pessah, ce n'est pas un morceau de viande, c'est un morceau de matzah. Mais justement, de cette matzah qu'on avait mis de côté au début du repas, quand on a partagé la matzah du milieu pour fabriquer le morceau de matzah, on avait un morceau de matzah, on avait l'autre moitié, on l'avait mise dans une serviette, on va la sortir et on va manger de nouveau une certaine quantité dans un certain laps de temps au titre de Korban Pessah. Ça veut dire, on va représenter, penser au fait de manger le Korban Pessah. Comme c'est de la matzah, il faut que ça soit dans le repas et seulement après, on va pouvoir faire Birkat Hamazon. Faire Birkat Hamazon, on va boire le troisième verre. Après, on va continuer, on va finir le Hallel qu'on avait laissé un peu en plat. Et puis ensuite, il va y avoir des psaumes, des chants, etc. Un côté plus festif, un peu plus léger que les choses qu'on a dites durant la phase d'avant le repas. Et ce qui va être important, c'est que quand on mangeait le Korban Pessah, quand on avait le Korban Pessah, on le mangeait en tout dernier. Et on gardait le goût du Korban Pessah dans la bouche, puisqu'on ne mangeait rien d'autre après. Et là, on va garder le goût de cette matzah qui représente le Korban Pessah, c'est-à-dire qu'on va rien manger après. Alors, on discute, est-ce qu'on peut boire un peu d'eau, est-ce qu'on peut boire du thé, etc. Non, enfin, tout ça, c'est le problème d'Alafra. Ils sont bien connus. Et ça, c'est la fin de cette soirée. Réminiscente de certaines mitzvot qu'on appelle ça, qu'on pouvait pas faire, où on va faire des choses qui nous font penser à, et puis des choses qu'on a fait la mitzvah, et on a fini donc ce récit. Alors bon, la question qu'on peut poser, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on a répondu aux quatre questions? Bon, ça, c'est toujours une question. Il y a des endroits où les gens se sont donné beaucoup de peine pour essayer de montrer qu'on avait vraiment répondu aux quatre questions. D'autres disent qu'on n'a pas vraiment répondu. Voilà, on est arrivé à la fin du repas. Il est l'heure.